Bonjour Ambroise.
Bonjour.
Bienvenue sur ce plateau, ici sur le festival BD Les Courants. Toi, tu es dessinateur au sein de l'atelier Moquette.
C'est ça.
Qui est un atelier basé à Blois, dans la maison de la BD, la toute jeune maison de la BD, qui a environ un an ou deux.
Deux ans
maintenant. Un mot sur cet atelier, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un espace de coworking? Est-ce que c'est un groupe de dessinateurs avec une identité commune? Qui êtes-vous, l'atelier Moquette?
Alors, le plus simple, c'est peut-être de commencer par présenter la maison de la BD très brièvement, puisque l'atelier Moquette, il est au sein de la maison de la BD. La maison de la BD, c'est un bâtiment qui est dans la ville de Blois, qui est dédié entièrement à la bande dessinée, qui est géré par les personnes qui gèrent l'association BD Boom, qui font le festival BD Boom depuis 1984.
Donc, depuis en novembre.
C'est ça, qui est en novembre. Donc, depuis deux ans, il y a la maison de la BD qui est ce bâtiment-là, où on trouve des expositions toute l'année, des ateliers, des cours qui sont ouverts souvent au groupe scolaire, mais il y a aussi des cours pour adultes, il y a des cours pour tous les âges, pour tout niveau en bande dessinée, en illustration. Mmh. Et dans la maison de la BD, il y a un atelier qui est une pièce où peuvent travailler les auteurs, ceux qui ont envie de se joindre à nous. C'est-à-dire qu'ils ont, on a un bureau, on travaille nos projets respectifs. Donc on ne travaille pas forcément ensemble, mais on travaille sur nos projets respectifs et distincts dans cet atelier qui s'appelle l'atelier Moquette, tout simplement parce que c'est la seule pièce de la maison de la BD où il y a de la moquette sur le sol. À part ça, il n'y a pas tellement d'autres explications.
Alors en réalité, c'est une grande pièce où vous avez effectivement chacun un bureau et vous y venez quand vous voulez. C'est vraiment un lieu qui est libre.
Oui, c'est ça. C'est vraiment un atelier qui est libre où chacun vient avec ses horaires et chacun travaille sur son projet. Il n'y a pas d'obligation particulière de faire tel ou tel projet. Après, ce qui n'empêche pas qu'on peut travailler en commun si on veut. Et puis, à côté de ça, on va donner nos cours. Ce sont souvent les gens de l'atelier qui vont donner les cours dans la maison de la BD. Pas uniquement, mais ils vont souvent intervenir.
Comment est-ce que vous avez été recruté, entre guillemets, dans l'atelier? Est-ce que c'est vous qui avez fait la démarche? Est-ce que c'est l'atelier ou la maison de la BD qui est venu vous chercher individuellement pour créer l'atelier Moquette?
Alors, pour moi, c'était particulier, c'est Enoch qui est là sur le stand avec moi, que je connaissais parce qu'on se croisait dans le centre-ville de Blois et dans le magasin qui vend des mangas et des DVD d'animation japonaise à Blois. On se croisait souvent à ce magasin-là, à Asian Gate. On avait pas mal discuté. Et puis, un jour, il m'explique qu'il y a la maison de la BD, il y a un atelier, est-ce que tu veux te joindre à nous? Et puis, bah, je lui ai dit pourquoi pas. Et puis, je suis venu comme ça au fur et à mesure. Et puis après, on s'est mis d'accord pour que je m'y inscrive, hein, pour que ça soit officiel. Donc c'est Enoch qui m'a introduit là-bas.
Vous êtes des auteurs, illustrateurs, dessinateurs assez différents, hein, dans votre style. Mmh. Toi, tu parlais un peu de manga, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les autres dessinateurs qui sont au sein de l'atelier Moquette.
Oui, en plus, tous ne font pas de la BD. On a Annie qui fait plutôt de l'illustration ou du livre illustré. On a Sylvie qui fait du conte illustré. On a Enoch qui fait de l'animation et qui fait de la BD. BD ou manga, après je sais pas, c'est lui qui dira mieux que moi s'il est plus dans la BD ou dans le manga maintenant. Et puis moi j'ai tendance à dire bande dessinée, mais c'est d'inspiration manga, mais voilà. Après la définition du manga, bon, bah, c'est la bande dessinée qui est faite au Japon, puisque le manga c'est le mot japonais pour dire bande dessinée, donc est-ce qu'on fait l'un ou l'autre, ça je pourrais pas dire, mais c'est vrai que j'ai une influence du manga et une influence de la BD, une influence du comics, un peu mélange.
Alors toi justement tu es un jeune dessinateur, donc tu es en train de construire tes différents projets éditoriaux et de BD, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours jusqu'à aujourd'hui ?
Oui, alors moi j'ai fait une... Bon, j'ai appris tout seul dans mon coin en faisant de la BD, comme font
comme
beaucoup d'auteurs
plupart.
qui apprennent sans forcément prendre de cours. J'ai pris des cours après pendant 3 ans à l'école Jean Trubert, qui était à Antony, qui est maintenant à Paris. C'est une école spécialisée en bande dessinée et en illustration. On a donc chez eux, on a un diplôme qui est reconnu par l'État de dessinateur de bande dessinée, qui fait un bac plus 2. Et on reçoit des cours par des auteurs qui sont publiés et qui sont nos profs de BD ou profs d'illustration, d'anatomie, etc. Après, moi, j'ai travaillé un peu pour faire d'illustration, beaucoup de petites commandes pour des particuliers ou pour des festivals ou pour des entreprises. Et puis, le projet de BD sur lequel je travaille, ça fait longtemps qu'il est en cours et je l'ai travaillé un peu en parallèle à tout ça. Et là, je suis à temps plein dessus, c'est-à-dire le scénario est écrit et je suis en train d'avancer les planches. Et il devrait sortir pour la fin de l'année, pour la fin 2017, pour une première partie. Ensuite, j'ai repris un catalogue d'édition qui était... dans ce catalogue, il y avait les bandes dessinées de Jean Trubert, donc qui porte le nom de l'école. L'école porte son nom, l'école que j'ai fait, elle porte son nom. Et Jean Trubert, il a été publié dans Vaillant, dans les magazines Vaillant, dans les magazines comme Mon Camarade, comme Femme Française. Il n'a pas été beaucoup republié après, et donc je réédite ces bandes dessinées-là, qui sont des bandes dessinées qui datent en général des années 50. Et après, il a travaillé jusque dans les années 70 et début 80. Mais là, pour l'instant, on a des titres qui datent des années 50. Donc, c'est de la BD un peu historique, hein, de la BD assez classique. On a le roman de Renard et on a Robin des Bois. L'anecdote du roman de Renard, c'est ce que j'ai dit à quelques personnes qui passaient là, c'est qu'il est préfacé par Albert Uderzo. Parce que c'était indirectement avec ce titre-là du roman de Renard que Goscinny et Uderzo ont fait Astérix. Puisque au départ, lorsqu'on leur avait passé la commande pour une bande dessinée, ils voulaient adapter le roman de Renard en bande dessinée. Et voyant ce titre-là de Jean Trubert du roman de Renard qui existait, ils ont décidé de changer de sujet et ils ont choisi les Gaulois à ce moment-là. Donc voilà, Uderzo aime bien raconter cette anecdote où c'est indirectement grâce au roman de Renard de Jean Trubert qu'il a eu la naissance d'Astérix. Voilà.
Sinon on aurait eu un renard.
C'est ça, sinon il aurait fait le roman. Ils avaient attaqué la première planche, hein, donc ils auraient continué et puis ils auraient fait le roman de Renard.
Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton parcours de dessinateur d'intégrer cet atelier Moquette à Blois ?
Alors, pas mal de contacts locaux, entre autres, mais je connaissais assez peu le monde du dessin dans la région, en fait. Je connaissais plutôt du monde en région parisienne. Ensuite, on a toujours des échanges de techniques entre dessinateurs, parce qu'on discute, on s'échange de méthodes, on regarde les autres travailler, donc on a ce genre de choses-là. Et puis, ça me donne aussi tout simplement du travail au niveau des cours que je donne, puisque je donne des cours là-bas assez régulièrement.
On avait un échange tout à l'heure avec Galien qui disait que vraiment c'était difficile de sortir la première BD, que souvent quand on n'est pas édité c'est un vrai frein pour des éditeurs et qui disent bah non, vous n'êtes pas édité, on va pas vous éditer.
Ah, c'est possible. Moi le problème que j'avais eu avec les éditeurs il y a quelques années, c'est que j'avais un style qui était à la fois d'influence manga et d'influence franco-belge, les éditeurs voulaient tout l'un ou tout l'autre. Ils voulaient quelque chose qui ressemble à du manga pur et dur ou à de la franco-belge pur et dur. Et donc, il me demandait de modifier et que ça soit entièrement manga. J'avais pas envie, donc j'ai gardé le projet de côté. Et puis bon, maintenant que j'ai une activité d'éditeur, je vais l'éditer moi-même. Et ce qui me permet de garder ce style-là qui me plaisait bien. Mais alors, il y a ce problème-là. Il y a aussi y a un autre problème qui peut se poser, c'est que si on a notre scénario, on peut aussi se voir refuser notre scénario et assigner un dessinateur qui est nouveau avec un scénariste de la maison. Il y a ce genre de choses. Et puis après, bon, l'obstacle de la première BD, c'est nous-mêmes, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à rechercher. Donc moi, je m'arrête souvent pour rechercher de la documentation, pour retravailler une technique. Donc c'est vrai qu'on ne tombe pas les planches aussi vite que quand on est déjà rodé.
On est plus lent.
4 ou 5 albums, oui, on est un peu plus lent. Surtout si on a envie de bien faire, on va retoucher. Et là, ça peut être un peu le danger de vouloir retoucher sans cesse. Et à un moment donné, il faut accepter les défauts et il faut avancer. Oui, c'est ça le danger à savoir franchir, c'est qu'il faut accepter nos défauts et avancer quand même un peu, parce que ça ne peut pas être parfait, donc il faut sortir l'album un jour ou l'autre. Hein.
Alors, pour finir, Ambroise, donc, cette BD, donc, le nom, tu ne souhaites pas le dévoiler, tu me l'as dit tout à l'heure.
Oui, pas tout de suite.
Va sortir peut-être l'année prochaine.
En fin d'année,
d'accord.
Premier épisode en fin d'année.
Donc c'est plus rapide.
Ouais.
Actualité de la maison de la BD, qu'est-ce que c'est l'expo en ce moment ?
Alors là, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a encore peu de temps, on avait une expo sur la nourriture. C'était un thème très large qui était la nourriture, avec des enfants, des groupes scolaires qui avaient participé, et puis nos élèves de la maison de la BD, les élèves qu'on a le mercredi qui participaient. Et l'exposition a dû changer là tout récemment. Donc il faut aller
à la maison de la BD pour le voir.
Ouais, je suis désolé, je pourrais pas vous le dire tout de suite.
Merci beaucoup Ambroise, Atelier Moquette.
Bien, merci à toi.
Bonjour Pierre Champion.
Bonjour.
Bienvenue sur le festival, surtout que c'est un invité dernière minute, invité surprise du festival de cette année.
Oui, exactement. J'étais prévenu jeudi, je me suis dit, fonce sur l'occasion, il faut absolument que tu viennes.
Alors, tu es venu en voisin, si j'ai bien compris. Tu t'habites pas très loin.
Oui, exactement, j'habite à Tours.
Voilà, c'est pas très loin, en effet. Alors, toi, tu as une BD que tu as auto-éditée qui s'appelle Blue Ghost.
Oui, exactement. Donc, j'ai écrit l'histoire et réalisé les dessins. En fait, c'est un projet qui date de 2011. C'est-à-dire que j'ai publié le premier tome en 2011, le deuxième en 2012 et le deuxième en 2013. Après, j'ai travaillé un peu plus dans le domaine associatif. Et là, cette année, j'ai sorti une édition reliée en couleur.
Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire, nous situer un peu l'histoire de Blue Ghost ?
Alors, Blue Ghost, c'est une histoire de super-héros. Mais on s'intéresse un peu plus à ses émotions, à ce que le personnage peut vivre dans sa vie privée. La première histoire, notamment, sa femme découvre qu'il est un super-héros. Donc elle lui dit d'arrêter parce que c'est dangereux, c'est illégal, et au final elle a raison. Et lui il dit « bah non, mais je suis altruiste, j'aide les gens », et il a raison aussi. Donc quelque part l'idée c'était que le lecteur se dise qu'il faut qu'il se positionne un peu, que lui fasse le choix moral. Souvent dans un BD de super-héros, c'est le héros qui fait le choix moral. Là il faut que le lecteur se dise est-ce que le héros prend les bonnes ou les mauvaises décisions ? Bon, la première question, c'était forcément dans son couple, comment se situer, quel compromis il faut faire, des questions un peu plus proches des personnages. Bon, l'intérêt du super-héros, c'est que c'est métaphorique. Si s'était disputé avec sa femme, s'il l'avait trompé, non pas parce qu'il était un héros, mais trompé avec une autre femme, ça aurait été beaucoup trop glauque. Avec le super-héros, ça reste quand même fun et léger, on peut se poser...
On peut se permettre de tromper sa femme parce qu'on a un super-héros.
Non, mais justement, je pense que là, le débat a plus le d'être s'il est un super-héros que s'il avait trompé sa femme. Et on peut vraiment se poser ces questions. Est-ce qu'il aurait dû lui dire, ne pas lui dire, alors qu'il avait trompé sa femme,
donc
c'est pas
bien
de base.
Donc c'est un super-héros avec de grandes questions morales.
Avec des grandes questions morales, avec aussi des grands défauts. Et l'idée, c'est qu'il va prendre plus ou moins des décisions. Alors, il a du mal à trouver sa place, c'est-à-dire déjà la place dans son couple. Après, il va rejoindre une équipe de super-héros. Il va avoir du mal à trouver sa place dans ce groupe-là aussi. Comme quand on est au travail, on peut aimer ou ne pas aimer des gens, mais il faut qu'on travaille avec eux. Et à un moment, dans le deuxième tome, il va être seul contre tous. Il va devoir aller sauver ses camarades. Certains camarades, ça le gonfle un peu d'être sauvé par ce gars-là parce qu'il ne l'aime pas trop. Et voilà, on se concentre plus sur des relations humaines. Mais ça reste malgré tout très fun parce que c'est du super-héros et ça reste léger.
Quelles sont tes influences, le point de départ de cette BD Blue Ghost ?
Alors étonnamment, c'est pas de la bande dessinée, c'est du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un jeu vidéo que j'aime beaucoup, je vais le citer, c'est donc Metal Gear Solid, donc où dedans il y a beaucoup d'interactions avec le joueur, par exemple il y a un moment il y a un ennemi qui déplace ses objets par la pensée, il fait vibrer la manette en disant « Haha, j'ai fait vibrer ta manette !» Donc c'est une manière d'interagir avec le lecteur, le spectateur ou le joueur en disant « Bah oui, l'œuvre, elle demande pas juste à être consommée, elle demande un peu à être comprise. » Et elle dit « Elle va vers toi, mais toi aussi, il faut te tailler vers elle et que tu essaies de comprendre des choses. » Et c'est vrai que cette idée de dilemme entre dire « Mais finalement, dans mon histoire, le héros il peut prendre soit les bonnes, soit les mauvaises décisions. » Mais j'ai pas envie de porter un regard là-dessus, j'ai envie que ce soit le lecteur qui le fasse. De la même manière que dans le jeu que j'ai cité, les gens allaient se poser des questions. Ah bah oui, tiens, c'est marrant, peut-être que le dialogue il a un double sens en me disant ça marche dans le contexte du jeu, mais ça marche aussi pour moi, joueur, et ça me concerne. Et là, j'ai envie que les gens se sentent concernés en s'impliquant un peu dedans.
L'univers, donc c'est un univers de super-héros. D'un point de vue graphique, c'est quoi aussi l'influence de cette BD ? C'est aussi ce jeu vidéo ?
Non, alors l'influence des bandes, alors forcément c'est super, alors là j'ai donné plus l'influence scénaristique, après c'est vrai qu'au niveau thématique et au niveau dessin, je suis parti d'une génération qui a grandi avec les bandes dessinées Strange, bon certes surtout celle de mon papa, hein, parce que je n'étais pas là dans les années 70, hein, mais c'est vrai que j'ai continué à lire des BD de super-héros, au niveau dessin ça m'a beaucoup influencé. Je pense qu'il y a une petite touche un peu manga aussi. Ma génération, c'était Club Dorothée, même si je grandissais pas, mais si je regardais pas, forcément, ça m'a un peu influencé, tout ce qui est manga. Et l'idée, je vais pas chercher forcément à me dire, tiens, il me faut tel style. Je me dis, voilà, j'ai envie de dessiner comme je veux, le mieux que je peux. Bien sûr, il y a des influences, mais... J'ai pas fait une psychanalyse pour savoir quelles sont mes influences.
Tu as donc édité Blue Ghost en auto-édition. C'est quand même une aventure, l'auto-édition. Comment ça s'est passé?
Ah bah j'ai braqué une banque. Hein. Non, plus sérieusement, alors c'est à la fois une aventure et pas une aventure, parce qu'effectivement, aller solliciter les éditeurs, vendre son projet, c'est aussi en soi une aventure qui peut soit réussir, soit échouer. Et puis vu que bon, beaucoup d'auteurs sont aussi dans une situation, comment dire, précaire, je sais pas si c'est plus ou moins une aventure. Alors c'est sûr qu'il faut économiser, il faut trouver un bon imprimeur, il faut bien préparer ses fichiers. Et il y a toute une partie en fait d'édition qu'on va prendre en main, hein, même si on est auteur. Voilà, on va travailler là-dessus.
C'est-à-dire donc la fabrication, comme tu viens de dire, mais aussi la commercialisation, c'est ça?
Oui, la commercialisation. Donc moi, je vends un peu sur Internet, en festival. Je pensais aussi pour le livre, c'est-à-dire qu'il faut bien faire attention à mettre tout aux bonnes dimensions pour le fichier Internet. Des fois, il y a des auteurs ne font pas forcément l'édito ou des parties peut-être un peu plus, enfin sur tout ce qui est pagination. Donc voilà, c'est des choses auxquelles effectivement il faut penser.
Et donc là, pour celui-là, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas d'erreur notable dans cette expérience-là.
Peut-être les fautes d'orthographe. Non, mais au fur et à mesure des rééditions, donc notamment des premiers volumes, c'est des choses qui s'améliorent, qui ont tout simplement été corrigées. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis permis de sortir cette édition couleur en me disant ça y est, c'est l'édition ultime. Normalement, il n'y a pas de faute dans celui-là. Et puis j'ai pu profiter aussi de la couleur pour rehausser un peu graphiquement, parce que c'est vrai qu'entre le premier volume et le dernier, graphiquement, j'avais quand même beaucoup progressé. Et c'est vrai que ça pouvait se voir d'une certaine manière. Et je me suis dit, bon, en ajoutant une même couche de couleurs qui soit un peu au même niveau, ça passe beaucoup mieux et l'œuvre est un peu plus unie.
Est-ce qu'il y a un Blue Ghost 2 en prévision, Pierre Champion?
Je ne vais pas spoiler la fin, mais en théorie, cette histoire de Blue Ghost était terminée. Alors là, comme je disais, je suis un peu plus sur le milieu associatif, donc mes projets perso avancent un peu moins. Mais normalement, je devrais sortir des spin-offs. C'est-à-dire que dans son univers, on se concentre sur ce personnage-là. Mais comme il est beaucoup en interaction avec d'autres, ces personnages-là, c'est pas qu'ils sont négligés, mais c'est qu'on va se concentrer sur ce héros. Donc voilà, je voudrais faire des spin-offs sur l'histoire des personnages secondaires. À un moment, il rejoint une équipe de super-héros, par exemple. J'aimerais écrire leurs propres histoires, et pas seulement autour de lui.
À suivre donc pour l'année prochaine, fin d'année.
J'espère, mais comme c'est des projets qui ont été assez longs et que je travaille aussi donc pour d'autres, je ne sortirai peut-être pas un 180 pages directement l'année prochaine. Voilà, je suis encore en train de réfléchir effectivement quand on fait de l'auto-édition, c'est ça, c'est quel format, quelle édition, qu'est-ce que les gens sont prêts à voir. C'est peut-être là où je me suis fait piéger, parce que j'ai sorti 180 pages en couleur. Si l'année prochaine j'en sors 50 en noir et blanc, est-ce que les gens sont aussi clients? Voilà. Bon. Après, je vais d'abord me concentrer sur la partie artistique, et puis je verrai après comment je vends ça.
Comment l'éditer. Merci beaucoup, Pierre Champion. Blue Ghost.